manquait arriver à, au réveil de Wesley. Et nous avions vu la première partie de la vie du ministère de Wesley. Et nous allons poursuivre. Wesley est un homme qui était un homme de Dieu il n'y a pas de problème. Mais il était homme aussi, n'est-ce pas? Il avait aussi ses faiblesses. Et un des plus grands échecs de Wesley, ça a été son mariage. Wesley enseignait, avait sur la question du mariage un enseignement très, très pertinent, très biblique, n'est-ce pas? Et il enseignait aux jeunes gens qu'ils devaient se marier après avoir vraiment cherché la volonté de Dieu, et sans avoir pris de grandes précautions. Et lui-même apprenait ses précautions pour ce qu'il concernait. Et de ce fait, il a été amené à se marier très tard. Il avait 50 ans quand il s'est marié. Et alors, quand il s'est marié, alors là, il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a épousé une veuve qui pensait être une femme de Dieu et qui s'est révélée être une véritable tigresse qui essayait de le mener à la baguette, qui lui faisait une vie impossible, qui venait le sortir du lit par les cheveux, le tirant par les cheveux le matin, des trucs comme ça. Enfin, c'était épouvantable, n'est-ce pas? Épouvantable. Il a vécu avec cette femme-là des moments absolument abominables. Ça a été vraiment l'échec royal de sa vie. Alors, évidemment, Wesley était un homme de Dieu, il ne se laissait pas marcher sur les pieds quand même par cette bonne femme-là. Tant et si bien que les relations dans le ménage étaient assez orageuses. Et finalement, elle partait, puis elle revenait, etc. Et puis un jour, elle est partie définitivement. Et Wesley a eu ce mot. Il a dit « Je ne l'ai pas chassée. Elle est partie d'elle-même. J'irai pas la chercher. » Et donc, ils ont vécu séparés jusqu'à la mort de Wesley. Alors, bon, bah, c'est hélas un des aspects négatifs, n'est-ce pas? Et ce que c'est le plus cocasse, c'est que lui-même avait repoussé son mariage le plus tard possible pour être sûr de pas se tromper. Et puis, en fait, il s'était bel et bien trompé, quoi. Bon, ensuite, ce qu'on peut dire de Wesley aussi, c'est que c'était un homme qui a eu plusieurs phases aussi dans, par exemple, en ce qui concernait le baptême. Lors de sa première visite aux États-Unis, il était persuadé de la réalité du baptême des adultes. Et il a prêché le baptême des adultes. C'était assez révolutionnaire pour lui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il était d'origine anglicane, et dans l'église anglicane, on baptisait les enfants. Et dans sa première visite en Angleterre, il a refusé de baptiser les enfants. C'est aussi dans son premier voyage aux États-Unis qu'il s'est séparé des Moraves, notamment à cause du fait que les Moraves, un certain nombre d'entre eux, du moins pas tous, n'est-ce pas, mais un certain nombre de ceux qui étaient aux États-Unis étaient des gens qui rejetaient la loi, un petit peu comme aujourd'hui on le fait de plus en plus. Les commandements de Dieu, c'est un petit peu comme les braves amis qui ne voulaient pas faire de scoutisme parce qu'il y a une loi et qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Bon, un certain nombre de piétistes moraves aux États-Unis avaient poussé très loin dans ce domaine-là. Et Wesley, donc, s'est heurté à eux quand il s'est trouvé aux États-Unis. Bon, Wesley, nous l'avons vu, avait déjà fait une mauvaise expérience avec les Moraves quand il était allé voir Zinzendorf, dans la mesure où il était tombé justement juste à l'époque où Zinzendorf passait sa crise de mysticisme exacerbé, quoi. Bon, et là, ça a été la rupture définitive avec les Moraves. Quand il s'est heurté aux Moraves antinomiens, ça veut dire qu'il était contre la loi, il a rompu définitivement avec les Moraves. Bon, par exemple, les Moraves de cette tendance-là, n'est-ce pas, prêchaient que un chrétien n'est pas tenu de prier, de lire sa Bible ou de communier. Ce serait, si on imposait ça aux chrétiens, ce serait une loi en quelque sorte. Et par conséquent, si on avait envie de prier, on priait. Si on n'avait pas envie de prier, on priait pas. Si on avait envie de lire sa Bible, on la lisait. Si on n'avait pas envie de la lire, on la lisait pas. Si on avait envie de communier, on communiait. Sinon, on le faisait pas, etc. C'était la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alors, bien entendu, c'était tout à fait contraire à l'esprit de Wesley, qui était un homme méthodique, comme le dit d'ailleurs la dénomination qu'il fonde, mais enfin, c'est pas lui qui le donne, n'est-ce pas? C'est les autres qui disent de lui, ce sont des méthodistes. Pourquoi? Parce que c'était un homme de méthode, justement. Et dans ce domaine-là, Wesley enseigner une discipline de vie très, 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 très précise, n'est-ce pas ? Notamment, justement, sur ces différents points-là. Bien, Wesley, ensuite, a eu maille à partir aussi, évidemment, avec les inconvertis. On n'avait pas un ministère de cette envergure-là sans qu'il y ait justement des oppositions. Et notamment dans ces réunions de plein air, n'est-ce pas, il a été parfois pris à partie, il a parfois été molesté. Et c'est ainsi que dans une réunion de plein air à Londres, il a reçu une pierre entre les yeux, hein, qui aurait dû l'assommer, voire le tuer, n'est-ce pas. Bon, il a continué à prêcher comme si de rien n'était. Il a parfois été frappé, hein, dans des réunions de plein air, et on voulait l'empêcher de prêcher, et physiquement il a été agressé par un certain nombre de gens qui étaient là, et bon, des frères sont venus lui prêter main forte, et puis il a réussi à prêcher quand même. Dans une autre occasion, des mauvais plaisants a profité de ce qu'il prêchait dans un champ, et qu'il y avait une foule immense qui était rassemblée là, ils ont lâché des bœufs. Hein, des bœufs au milieu de la foule qui ont commencé à charger la foule. Évidemment, les gens affolés ont commencé à se disperser dans toutes les directions, à se piétiner les uns les autres, etc. Bon, enfin voilà le genre de problème auquel Wesley a été confronté dans son ministère. Mais Wesley ne s'est jamais laissé décourager par ces choses-là. C'est pas, il savait que ça faisait partie de son lot de ministère de ministre de la parole de Dieu, et il a donc continué imperturbablement. Une des grandes pommes de discorde qui a éclaté entre lui et l'Église anglicane en particulier, c'est que Wesley a très vite accepté ce qu'on appelait des prédicateurs laïcs. Or, dans les églises institutionnalisées, n'est-ce pas, telle l'Église d'Angleterre, mais c'était vrai aussi pour l'Église luthérienne en Allemagne, et Zinzendorf a eu aussi des problèmes du même ordre avec l'Église luthérienne, n'est-ce pas, on insistait énormément sur la nécessité de l'ordination pour pouvoir prêcher. Ne pouvaient prêcher que des gens qui étaient dûment habilités pour le faire, et donc qui avaient fait des études, qui avaient passé devant des commissions théologiques, qui avaient examiné s'ils étaient aptes ou non à prêcher, etc. Or, Wesley, dans le feu du réveil, était beaucoup moins regardant que cela. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, avait vraiment des dispositions pour la prédication, études ou pas études, commission ou pas commission, Wesley le poussait sur une chaise, et puis le frère en question commençait à prêcher. Et là, évidemment, c'était insupportable pour l'Église anglicane. Et l'Église anglicane lui a cherché chicane à cause de ça, justement parce qu'il faisait prêcher des gens qui n'étaient pas ordonnés. Et ce fut, en quelque sorte, le point de départ de la rupture avec l'Église anglicane. Enfin, le point sur lequel ça s'est cristallisé. Bien entendu, ce n'était pas le seul point. L'Église anglicane supportait de plus en plus mal, évidemment, la prédication fougueuse de Wesley, supportait aussi très mal les réunions en plein air. On ne pouvait pas comprendre, n'est-ce pas, qu'on prêche l'Évangile en dehors d'une cathédrale, quoi, hein, dans le culte anglican très, très rigoriste, n'est-ce pas. Bon, prêcher en plein air, quel manque de respect pour Dieu, pour sa parole, etc. Bon, mais disons, ça s'est focalisé, ça s'est cristallisé sur la question des prédicateurs laïcs. Et finalement, quand Wesley est mort, il était très âgé, je crois qu'il avait plus de 90 et quelques années quand il est mort, n'est-ce pas? Bon, on était au bord de la rupture. Finalement, Wesley ne souhaitait pas la rupture. Il a fait évidemment tout ce qui était dans son possible pour garder un dialogue avec les responsables de l'Église anglicane et puis faire en sorte que la rupture soit évitée. Mais finalement, après sa mort, la rupture est devenue inévitable. Et c'est alors que s'est créée l'Église méthodiste. Les successeurs de Wesley ont bien entendu gardé ses principes, c'était normal. Et finalement, les choses sont arrivées au point où il y a eu rupture. Il y a eu rupture et est née donc ici l'Église méthodiste. On l'a appelée méthodiste, justement. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés méthodistes, mais finalement, ce sont les gens de l'extérieur qui les voyant vivre, nous ont dit, ben, ce sont des méthodistes. Et finalement, comme souvent c'est le cas en pareilles circonstances, eh bien, ils ont accepté ce terme et ils se sont appelés les méthodistes avec fierté aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a différentes églises méthodistes. Peut-être que je pourrais vous lire un texte, si vous voulez, qui nous parle de ce réveil méthodiste. Hein ? Voilà. Je me suis senti pénétré par le sentiment de la grandeur merveilleuse de l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie en Angleterre pendant ces dernières années. Et sous l'impression de ses pensées, j'ai prêché sur ce texte. Il n'a pas fait ainsi parmi toutes les nations. Psaume 147, verset 20. En effet, nulle part, ni en Écosse, ni en Nouvelle-Angleterre, Dieu manifesté son bras d'une manière aussi étonnante. La chose paraîtra évidente à quiconque voudra considérer impartialement, d'abord, le nombre de personnes qui ont été réformées. Deuxièmement, la rapidité de l'œuvre chez plusieurs qui ont été convaincus de péché et convertis en quelques jours. Troisièmement, sa profondeur chez la plupart des personnes dont elle a changé le cœur aussi bien que toute la conduite. Quatrièmement, sa clarté qui permet aux âmes de s'écrier « Tu m'as aimé et tu t'es donné moi-même, toi-même pour moi ». Cinquièmement, sa continuité. En Écosse et dans la Nouvelle-Angleterre, les réveils ont éclaté à diverses reprises et ont duré quelques semaines ou quelques mois, tandis que le mouvement méthodiste dure depuis 18 ans environ, et cela sans interruption appréciable. Et par-dessus tout, qu'on veuille bien remarquer ceci, tandis que le clergé régulier a pris une large part dans les réveils de l'Écosse et de la Nouvelle-Angleterre, c'est à peine si chez nous deux ou trois ecclésiastiques sans importance se sont associés au réveil, avec quelques jeunes gens illettrés. Quant à la masse du clergé et des laïcs, elle s'y est opposée de toutes ses forces. Celui qui prendra la peine d'y réfléchir reconnaîtra que c'est bien là une œuvre de Dieu et qu'en réalité, il n'a pas fait de la même manière pour toutes les nations. Bon, alors, ce texte est intéressant. Maintenant, il y a un autre point aussi, n'est-ce pas ? Wesley, dans sa volonté de rester dans l'Église anglicane, a été amené aussi à faire des compromis discutables. Nous avons vu que dans sa première visite aux États-Unis, il avait refusé de prêcher les enfants. Il s'est fait apostropher vertement pour ce faire, n'est-ce pas ? Et notamment, il s'est fait traiter de rigoriste, d'intolérant, etc. Et on a été à deux points de la rupture avec l'Église d'Angleterre pour laquelle le baptême des enfants était quelque chose d'important, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et finalement, Wesley a accepté de mettre de l'eau dans son vin pour éviter la rupture. Et puis en même temps, se disant qu'effectivement, peut-être, il avait été un peu loin, il avait été un peu rigoriste, il avait été un peu légaliste, etc. Et finalement, il a accepté les deux formes de baptême. C'est très intéressant parce que finalement, lui est resté convaincu que le seul baptême véritable était le baptême des adultes. Et il continuait à baptiser des adultes, tout en continuant aussi à baptiser des enfants. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où on a accepté les deux formes de baptême, eh bien, c'est le baptême des enfants qui a pris le pas sur le baptême des adultes. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple dans la Fédération protestante, c'est la même démarche que l'on voudrait imposer aux églises de professants, aux églises de type baptiste comme les nôtres. On voudrait nous amener à reconnaître la validité du baptême des enfants par esprit aussi de conciliation, par esprit d'ouverture, par esprit de tolérance, de respect des autres, etc., etc. Seulement, l'expérience de Wesley est là pour nous montrer que, finalement, à partir du moment où on transige sur ce point-là, dans les faits, c'est le baptême des enfants qui prend le pas sur le baptême des adultes. Et en l'espace d'une ou deux générations, même pas une génération, n'est-ce pas, le baptême des adultes a totalement disparu des églises méthodistes. Et aujourd'hui, toutes les églises méthodistes pratiquent le baptême des enfants et certaines sont extrêmement hostiles au baptême des adultes. C'est une loi, en quelque sorte, c'est une loi ici à laquelle il est impossible d'éviter. Bien. Alors voilà pour ce qui est de Wesley. Mais Wesley n'était pas seul dans ce réveil. Il a été la cheville ouvrière du réveil, mais il avait autour de lui des hommes, des géants de la foi, de sa stature, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Des hommes qui l'ont admirablement complété. C'est tout à fait remarquable de voir que, on peut dire que, à la base du réveil méthodiste, il y avait une équipe profondément unie, un petit peu comme il y avait autour de l'apôtre Paul, des gens comme Luth, comme Timothée, comme Tite, comme Aquilas et Priscille, etc. Autour de Wesley, il en a été de même. Un des plus grands hommes de Dieu de cette période-là, c'est George Whitefield. George Whitefield, c'est date 1714 et 1770. On a dit de lui que c'était le plus grand prédicateur de cette époque. C'est en 1739 qu'il a rencontré les deux frères Wesley, John et Charles, à Oxford, quand ils étaient à Oxford tous les deux. Et il a suivi donc toute la démarche de Wesley, toute cette longue recherche du salut par grâce, n'est-ce pas, jusqu'à la fameuse rencontre au cours de laquelle Wesley s'est véritablement converti en attendant une lecture d'un sermon de, de Luther par un frère morave, n'est-ce pas? On a vu ça la dernière fois. Et donc, dans la foulée, Whitefield aussi s'est véritablement converti. En 1636, il avait été ordonné diacre. Et en 1638, il va accompagner Wesley aux États-Unis, dans sa première visite aux États-Unis. En 1643, il y aura un différend entre eux, et notamment au sujet de la question de la prédestination. Ça, c'est une question qui a souvent divisé les églises. Je dis souvent, c'est une fausse question, c'est un faux problème, parce que finalement, la Bible nous parle à la fois de la prédestination et puis en même temps de la liberté de l'homme. C'est une de ces antinomies de la Bible, n'est-ce pas, qu'il faut bien accepter comme telle sans essayer de la rationaliser. À partir du moment où on essaie de rationaliser ces choses, c'est là que naissent les problèmes. Bon, c'est ce qui s'était passé. Et puis, finalement, il a créé la branche calviniste de l'Église méthodiste. Et dès le départ, n'est-ce pas, l'Église méthodiste a été divisée. Il y a plusieurs mouvements méthodistes aujourd'hui. L'Église méthodiste n'est pas une. Mais les deux hommes se réconcilient et ils resteront en bon terme jusqu'au bout. Whitefield était un homme qui avait une voix de stentor, une voix formidable, n'est-ce pas, qui portait très loin. Et il a été celui qui a commencé les réunions de plein air. Nous avons vu cela, n'est-ce pas? Quand on a interdit à Wesley et à Whitefield qui ont commencé leur ministère dans les églises anglicanes où on les invitait, finalement, leurs prédications ont créé tellement de remous dans les églises qu'ils ont été interdits de prédication. Et c'est là qu'un jour, Whitefield, qui avait été mis dehors d'une église où il devait prêcher, la porte avait été fermée à double tour et la prédication avait été interdite, n'est-ce pas? Whitefield a rassemblé son monde dans une prairie avoisinante et il a commencé à prêcher en plein air. Ça a été comme ça le début, n'est-ce pas, des prédications en plein air. Finalement, John Wesley a suivi le mouvement, mais c'est Whitefield qui a eu cette espèce d'inspiration, n'est-ce pas, de commencer, d'autant plus qu'il n'avait pas besoin de haut-parleur. Lui, il n'avait pas besoin de micro à cette époque-là. Il avait une voix qui portait tellement loin qu'il avait un haut-parleur naturel, en quelque sorte. Il avait aussi un don de toucher les foules. C'était le véritable évangéliste qui parlait droit au cœur, n'est-ce pas, et les foules étaient saisies de convictions de péché quand il prêchait. Mais il n'avait pas les talents d'organisateur de Wesley. Il était évangéliste, quoi, il n'était pas apôtre. Tandis que Wesley était véritablement l'apôtre, tandis que Whitefield était véritablement l'évangéliste. Il a surtout travaillé dans le Pays de Galles. Et l'essentiel de son ministère a porté sur le Pays de Galles, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le deuxième homme qui se trouvait donc ici aux côtés de Wesley. Le troisième homme, c'était le propre frère de John, Charles Wesley, qui, alors que donc John était l'apôtre, Whitefield était l'évangéliste, Charles était le chantre, n'est-ce pas? C'est un ministère assez particulier, mais ça a été, n'est-ce pas? Charles était un homme qui avait un don poétique et musical très, très développé, et il a composé de très nombreux cantiques. En fait, 6000 cantiques ont été composés par Charles pendant toute son existence, pendant toute sa vie. Il chantait ces cantiques. Il avait une très très belle voix, c'est pas. Il avait aussi des talents musicaux. Il s'accompagnait très bien différents instruments, c'est pas. Il touchait les foules par son chant, c'est pas. Les personnes se convertissaient, c'est pas, il les amenait à une décision immédiate rien qu'en chantant. Dans nos recueils de cantiques, il y a des chants de Charles Wesley, par exemple le Rédempteur adorable est un cantique qui a été créé par lui. D'autres cantiques aussi, n'est-ce pas, sont encore chantés, qui sont nés dans ce réveil-là par Charles Wesley. Charles Wesley a eu une nombreuse famille. Il a mieux réussi en sa vie conjugale et familiale que son frère. Il a eu 8 enfants, n'est-ce pas? Et lui-même aussi, il est mort très âgé, tout comme John. Il avait 80 ans quand il est mort. Alors, ces trois hommes vont créer donc ce mouvement, cet extraordinaire mouvement du méthodisme, n'est-ce pas? Bien que, comme nous l'avons vu, ils ne voulaient pas, aucun d'entre eux ne voulait créer une église dissidente au départ. Et finalement, c'est avec beaucoup d'hésitation que le trio, en quelque sorte, ces trois hommes, ont accepté d'administrer les sacrements. Administrer les sacrements, c'était donc, en quelque sorte, déjà s'institutionnaliser en Église. Et Ce n'est qu'au bout de nombreuses années que John a donné aux sociétés, parce qu'il créait, ce n'était pas des églises, il appelait ça des sociétés. Des sociétés avec des circuits, c'est pas des superintendants qui visitaient les circuits, etc. En fin de compte, c'était des églises, mais il ne voulait pas les appeler églises, encore une fois, parce qu'il ne voulait pas créer un nouveau mouvement. Et ce n'est qu'après de nombreuses années qu'il a donné aux sociétés le droit d'administrer les sacrements, c'est-à-dire le baptême et la Sainte-Cène. Puis ensuite, alors ça a été la pomme de discorde, nous l'avons vu, le droit d'ordonner des prédicateurs. Alors là, sans passer par les institutions de l'Église anglicane, qui ne les aurait pas reconnues, bien entendu, ils n'étaient pas formés comme, selon les principes anglicans. Et petit à petit, on est passé comme ça d'une ecclésiola in ecclesia, hein, d'une petite église dans la grande église, on est passé à une église tout court, quoi. Sans qu'il y ait eu de rupture franche, en fin de compte. Hein. La rupture, le passage, s'est fait progressivement, puis finalement, quand Wesley est mort, on s'est dit, mais finalement, qu'y a-t-il de commun entre les sociétés wesleyennes et puis l'église anglicane, quoi. Et finalement, on s'est trouvé en face d'une église, quoi. Une église qui était née d'elle-même, quoi. Bien. Alors, Wesley a beaucoup voyagé. Entre 1747 et 1789, il s'est rendu 42 fois en Irlande. Il avait un gros, gros fardeau pour ce pays-là, qui commençait d'ailleurs à connaître des troubles. Et en 1669, il avait commencé à envoyer deux prédicateurs en Amérique. En 1673, il est venu lui-même et a eu lieu à Philadelphie la première réunion méthodiste. En 1649, a eu lieu à 1794, pardon, a eu lieu à Baltimore la première convention méthodiste d'Amérique qui regroupait 15 000 personnes. Ça veut dire que depuis 1769 jusqu'en 1794, le mouvement avait grandi, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui s'étaient converties. Donc, une convention qui rassemble à Baltimore 15 000 personnes. Hein, c'est extraordinaire, c'est considérable. Et aux États-Unis, ces groupes, en quelque sorte, ces sociétés, se sont presque immédiatement érigées en église. Parce que on était loin de l'Angleterre. Et si vous voulez, l'influence anglicane jouait beaucoup moins. Bon, il y avait, évidemment, aux États-Unis déjà, une église anglicane, qui s'appelait d'ailleurs l'église épiscopalienne jusqu'à aujourd'hui, mais de laquelle, si vous voulez, les méthodistes anglais, les méthodistes américains plus exactement, se sentaient beaucoup plus détachés que les méthodistes anglais. Si bien que on a créé, très vite, à partir de la convention de Baltimore en particulier, une église qui a pris le nom d'église épiscopale méthodiste, qui était distincte de l'église anglicane, mais ça a été très mal vu, évidemment, par les Américains. Wesley a encouragé, accompagné ce mouvement et il a donné une constitution légale pour organiser les églises ainsi créées. Et il a suivi de très près ce qui se passait en Amérique jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Alors Wesley, ce qui était le propre de sa doctrine, n'est-ce pas, c'était la question de la sanctification. Wesley avait découvert, n'est-ce pas, que dans les églises issues de la Réforme, donc y compris l'église anglicane, on avait la doctrine juste en ce qui concernait la justification. Justification par la foi seule, qui était la grande découverte de Luther au XVIe siècle, et donc de toutes les églises protestantes au XVIe siècle, mais que très souvent, à partir du moment où les gens avaient le sentiment qu'ils étaient pardonnés de leurs péchés, eh bien, ils vivaient comme ils l'entendaient. Donc, ils vivaient en général comme des païens. Et Wesley s'est rendu compte qu'il y avait là un problème, qu'au contraire, l'Évangile nous fait devoir, une fois justifié par la foi, de marcher en nouveauté de vie dans la sanctification. Et Wesley a découvert ce texte, n'est-ce pas, sans la sanctification, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et Wesley s'est interrogé sur la nature de cette sanctification. Et là, Wesley s'est trouvé confronté à un autre point de doctrine qui était complètement évacué, évidemment, de toutes les églises. C'était la question du baptême dans le Saint-Esprit. Wesley a très vite constaté, quand on lit la Bible, et notamment le livre des Actes, les Évangiles et les Actes, que la Bible nous parle de deux choses. La Bible nous parle de la nouvelle naissance, la justification par la foi, je prends l'épître aux Romains, n'est-ce pas? Et puis, il nous parle aussi de la sanctification par l'Esprit. C'est notamment le thème de chapitres 7 et 8 de l'épître aux Romains. Et aussi, ils se disent, c'est là que l'on a péché. On a insisté sur la première partie de l'épître aux Romains, mais pas sur la deuxième partie, c'est-à-dire la sanctification par l'Esprit. Et à partir de là, Wesley s'est rendu compte que dans le livre des Actes, il y avait une expérience qui avait à voir avec l'Esprit, qui s'appelait le baptême dans le Saint-Esprit. Sanctification par l'Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, il s'est dit peut-être que ça, c'est finalement une seule et même chose. Et de fait, en relisant les Actes, il s'est rendu compte qu'il y avait deux expériences, l'expérience de la nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit, et puis le baptême dans le Saint-Esprit, qui venait 40 jours après le moment où les apôtres étaient nés de nouveau. Alors, il s'est dit, bien, nous avons oublié cela. Il faut redécouvrir ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et finalement, après des études poussées de la Bible, Wesley est arrivé à la conclusion que le baptême dans le Saint-Esprit était une expérience au cours de laquelle l'individu était entièrement sanctifié instantanément par l'Esprit de Dieu. Et qu'il devenait capable, si vous voulez, par cette expérience de purification intérieure, de feu, je sais pas si vous prenez les termes de Jean-Baptiste, il baptisera dans le feu, feu purificateur, n'est-ce pas, qui brûle le péché, qui consume le péché dans l'individu, qui consume la racine du péché, en quelque sorte, disait Wesley, et qui permet à l'individu, n'est-ce pas, de vivre une vie de sainteté. Et Wesley croyait que l'individu était capable, alors, de mener une vie de sainteté parfaite, exempte de tout péché, en acte, en parole, en pensée, en attitude. Wesley était suffisamment pratique, disons, pour savoir que même après cette expérience qu'il appelait cette expérience d'entière sanctification ou de baptême dans le Saint-Esprit, on n'arrivait pas à ce but du jour au lendemain. Alors, Wesley était arrivé à définir cette doctrine de la manière suivante. Il disait, comment obtient-on cette sanctification par l'Esprit ? Par un acte de consécration. Il reprenait le terme de Paul, « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Hein ». Donc, offrir l'entière consécration, tout déposer sur l'autel. Et Wesley, à côté des réunions d'appel pour les pécheurs, l'évangélisation classique en quelque sorte, tenait des réunions spéciales pour les chrétiens, dans lesquelles il les invitait à cette entière consécration, à tout déposer sur l'autel, à ne plus rien garder pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, en quelque sorte, le Saint-Esprit descendait sur ces gens-là et les purifiait de la racine du péché. Maintenant, disait Wesley, à partir du moment où vous avez le sentiment intérieur que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, parce que pour lui c'était juste un sentiment intérieur, il n'y avait pas de signe réel, il n'y avait pas le parler en langue, on n'était pas encore là. Hein. Mais quand vous avez le sentiment que le Saint-Esprit est descendu en vous et qu'il a consumé, purifié tout péché, vous n'êtes pas au but. Hein ? La vieille nature peut reprendre le dessus. Et c'est pourquoi vous devez maintenant vivre une vie dans une grande discipline personnelle. Et vous prenez le texte de l'apôtre Paul, « Je traite durement mon corps », etc. D'où justement une méthode qu'il avait mise au point. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, certains ont fait le parallèle entre la méthode de Wesley et puis les fameux exercices d'Ignace de Loyola. Bon, c'est très différent, en fin de compte, je crois que c'est un parallèle qu'il ne faut pas pousser trop loin. Mais le principe était le même, si vous voulez. S'imposer une discipline personnelle pour que finalement, on arrive à ce stade où l'individu ne pêche plus du tout. Hein, ne pêche plus du tout. Bon. Alors, ça, c'est la vraie doctrine méthodiste. Hein. Alors, cette doctrine-là, il faut la critiquer, à la fois dans ce qu'elle a de positif et dans ce qu'elle a de négatif. Le grand mérite de Wesley dans ce domaine-là, enfin, il y a eu deux mérites, en fin de compte. Le premier, c'est d'insister sur la nécessité d'une vie pure et d'une vie sainte. C'est vrai que de son temps, c'était une chose qui était oubliée. Deuxième mérite de Wesley, ça a été de découvrir qu'à côté de la justification, il y avait une deuxième expérience appelée le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un hasard si un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard en tout cas, au début de notre siècle, le réveil pentecôtiste, avec le baptême dans le Saint-Esprit, avec le don des langues, etc., naîtra dans des milieux méthodistes. C'est-à-dire que, à partir de Wesley, toute une grande partie de l'Église, chrétienne, protestante, dans le monde anglo-saxon en particulier, va s'habituer à cette idée d'une seconde expérience, va s'habituer à l'idée du baptême dans le Saint-Esprit. Mais Wesley n'a pas encore cerné suffisamment, si vous voulez, les textes bibliques pour définir précisément ce qu'est ce baptême dans le Saint-Esprit. Il dit il y a un baptême dans le Saint-Esprit, finalement on se retrouve dans la situation des Éphésiens dont il est question dans le livre des Actes, quand Paul arrive à Éphèse, hein, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et les Éphésiens répondent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un baptême dans le Saint-Esprit. » Bon, ben voilà, ça c'était la situation de l'église de Wesley. Du temps de Wesley, l'église chrétienne n'avait même pas entendu dire qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit. Bon, le grand mérite de Wesley, ça a été de leur dire « il y a un baptême dans le Saint-Esprit ». Bon, il faudra encore attendre plus d'un siècle pour qu'on découvre exactement ce que c'était que le baptême dans le Saint-Esprit, mais la chose était placée, le but était là. Il faut maintenant rechercher ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Bon. Maintenant, sur le plan justement de la sanctification proprement dite, Wesley a redécouvert effectivement aussi un principe extrêmement important. C'est que la sanctification n'est pas le fruit de nos efforts, ce qui était le principe du catholicisme, mais vient comme un don de Dieu, en réponse effectivement à l'abandon, en quelque sorte, de tout notre être, de toute notre vie au Seigneur. L'entière consécration, là, il avait raison. Il avait raison. Maintenant, ce qui est peut-être discutable, c'est cette idée, n'est-ce pas, que l'on peut arriver à ne plus pécher en rien. C'est discutable pour deux raisons. Parce que d'abord, nous ne trouvons qu'un exemple biblique, mis à part Jésus, d'une telle vie. Et le plus grand de tous les apôtres, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dira « Ce n'est pas que j'ai atteint le but et que je sois arrivé à la perfection. » Bon. S'il y avait un homme qui pouvait espérer atteindre cet état dont parle Wesley, c'était bien l'apôtre Paul. Nulle part l'apôtre Paul, donc, ne prétend à cette perfection dont Wesley affirmait qu'elle était possible. Deuxièmement, pour pouvoir atteindre cette perfection, il faudrait avoir la toute connaissance, parce qu'il faudrait à chaque fois, dans chaque circonstance de notre vie, savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça voudrait dire qu'il faudra avoir une connaissance qui est pratiquement l'omniscience de Dieu, la toute connaissance de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que l'Ancien Testament avait prévu des sacrifices pour les péchés commis par méconnaissance. Il y a des fautes que nous faisons par méconnaissance. Arriver à la perfection dont parle Wesley voudrait dire que finalement l'être humain devient infaillible. Or, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, l'erreur est toujours possible. Et là, finalement, c'est un petit peu dangereux. Et à la limite, n'est-ce pas, nous verrons qu'au siècle suivant, au XIXe siècle, un homme a pris cette doctrine et en a tiré des conséquences. C'est William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui s'est proclamé général de l'Armée du Salut avec, si vous voulez, c'était un pape. En tant que général de l'Armée du Salut, ses ordres devaient être obéis sans discussion, exactement comme le pape. Voyez-vous, et c'est très intéressant de constater que dans le protestantisme, nous avons un papisme. Nous avons un papisme, l'armée du salut est une organisation qui est construite sur le modèle de l'Église catholique, avec un pape à sa tête, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette idée, n'est-ce pas, que le général de l'armée du salut devait être un homme qui avait atteint cet état, n'est-ce pas, où il était devenu quasiment infaillible. Et par conséquent, s'il était devenu parfaitement infaillible, il n'y avait aucune raison de discuter ses ordres. Il n'y avait aucune raison d'avoir un comité, une direction collégiale en quelque sorte, qui a été finalement la direction de toutes les églises, mis à part l'église catholique, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que justement, on était conscient que les hommes sont faillibles, même les meilleurs. Hein ? Mais dans l'armée du salut, on a dit non. Puisque on peut atteindre cette perfection, bien, nous pouvons avoir un homme infaillible à notre tête. Enfin, bon, vous voyez tous les dangers que ça ouvre. Bon, maintenant, dans les faits, évidemment, l'armée du salut est moins affirmative. Mais enfin, si vous voulez, du temps de William Booth, c'était ça. C'était ça. Bon. Donc, il faudrait avoir toute la connaissance de Dieu. Et nous savons bien que nous n'avons pas toute cette connaissance. Nous savons bien que nous nous trompons. Et parfois, en pensant faire bien, nous faisons mal. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand bien même nous saurions toujours ce qui est bien et ce qui est mal, encore faudrait-il que nous ayons toujours la force morale et spirituelle de choisir ce qui est bien et de laisser ce qui est mal. Or, nous savons bien qu'il y a des moments où nous savons pertinemment ce qui est bien et ce qui est mal, et malgré tout, nous faisons ce qui est mal, emportés par notre vieille nature, etc., etc. Par conséquent, là, c'était poussé un peu loin. Bon, évidemment, Wesley plaçait ça comme un idéal à atteindre. Et d'une certaine manière, il avait raison en disant, ben, le Seigneur nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, nous avons à tendre vers la perfection, Paul nous le dit. Hein. Et lui-même n'a jamais prétendu qu'il avait atteint ce stade. Il l'a laissé plus comme un idéal que comme une réalité. Il était suffisamment sage pour ne pas pousser trop loin. Mais d'autres, après lui, n'ont pas eu ce scrupule. Et certains, dans certains milieux issus du méthodisme, je dirais pas méthodiste, mais issus du méthodisme, ont affirmé que, si vous voulez, la deuxième expérience dont parlait Wesley faisait de celui qui en était le bénéficiaire quelqu'un qui devenait parfait, incapable de pécher. Et je me souviens d'un individu qui affirmait cela et qui disait un jour dans une église baptiste où il passait, n'est-ce pas, ça fait je ne sais pas combien, tant d'années que j'ai été sanctifié et depuis ce temps-là, je n'ai jamais commis un péché. Bon, qu'on puisse dire, c'est que celui-là, il péchait pas par modestie, hein, ça c'est sûr. Alors vous voyez, si vous voulez, il faut faire attention, il ne faut pas pousser trop loin. Mais c'est vrai, Wesley a eu raison de rappeler ainsi un certain nombre de réalités. Bon, d'autres sont allés plus loin, mais ce n'est pas lui, en fin de compte. Hein, ce n'est pas lui, n'est-ce pas ? Bien, Wesley était aussi un homme qui avait un grand intérêt pour la mystique. Et chose tout à fait étonnante, la mystique de Mme Guyon. Mme Guyon, c'est très amusant, Mme Guyon, dans les milieux anglo-saxons, a toujours eu la cote. Et jusqu'à aujourd'hui, Mme Guyon, dans les milieux anglo-saxons, à la côte. Wesley était un grand admirateur de Mme Guyon. Bon, là aussi, il faut nuancer un peu, parce que chez Mme Guyon, il y a des choses qui sont aussi un peu discutables. Alors, la doctrine de Wesley a été reprise par les églises méthodistes. Alors, il y a plusieurs églises méthodistes. Hein. Nous avons vu l'église épiscopale wesleyenne ou méthodiste, n'est-ce pas ? Bon, il y a différentes choses, il y a des nuances. Parfois, il y a eu des problèmes de personnes qui ont fait que des églises méthodistes se sont divisées puis se sont ensuite réconciliées, etc. Mais bon, j'ai parlé de l'Armée du Salut, par exemple, qui est une église méthodiste en fin de compte. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, sa théologie reste une théologie méthodiste. Bon, il y a une grande dénomination américaine qui s'appelle United Brethren, les Frères Unis, qui est wesleyenne, qui est méthodiste, en quelque sorte. L'église nazaréenne, les nazaréens, n'est-ce pas, qui existe en France, il y a quelques petites églises nazaréennes en France, sont des églises méthodistes, en fin de compte, dissidentes, par rapport aux églises méthodistes officielles. Bon, sur quel point, je ne saurais plus trop vous dire. Je simplement cite ça parce que l'église nazaréenne française, qui est surtout représentée dans l'Est et dans la région parisienne, je crois qu'ils n'ont pas plus de 4 églises sur toute la France, ont demandé leur attachement à la Fédération protestante au dernier congrès de Marseille, n'est-ce pas ? Bon, en France même, les églises méthodistes ont été relativement nombreuses parce que, évidemment, on n'était pas très loin de l'Angleterre. Et le réveil méthodiste a influencé la France. Et pendant le 19e siècle, les églises méthodistes se sont relativement implantées en France, par exemple en Bretagne. Les églises du sud de la Bretagne étaient essentiellement des églises d'origine méthodiste. Les méthodistes ont eu une grande vision missionnaire au siècle suivant, n'est-ce pas? Et bon, ils sont allés évangéliser leurs frères aussi en France, n'est-ce pas? Et notamment en Bretagne. Les églises méthodistes ont disparu en 1937, 1938, pardon. Lorsque les différents mouvements qui formaient le protestantisme français se sont rassemblés dans l'Église réformée de France. Et toutes les composantes du protestantisme français, sauf les baptistes et les libristes et les églises réformées évangéliques, se sont fondues dans l'Église réformée de France. Si bien que, si vous voulez, les églises méthodistes ont pratiquement disparu à ce moment-là et sont devenues tout simplement des églises réformées, ce qui ne leur posait aucun problème, dans la mesure où elles avaient le baptême des enfants qui était devenu prioritaire, comme nous l'avons vu. Bon, l'élément sanctification s'était considérablement estompé, tant et si bien que finalement ça n'a fait aucun problème pour qu'ils rejoignent l'Église réformée. Quelques églises locales ont refusé cette intégration à l'Église réformée de France et sont restées méthodistes jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'il y a, je ne sais pas si on peut pas compter le nombre des églises méthodistes en France sur les doigts des deux mains. Mais il y a quelques églises méthodistes en France encore aujourd'hui. Bon, par contre, aux États-Unis, évidemment, et en Angleterre, c'est une des grandes, grandes dénominations protestantes du monde anglo-saxon. Bon, contrairement aux réformés, les méthodistes, bien que baptisant les enfants, sont en général des arminiens et non pas des calvinistes. Ça veut dire qu'ils insistent sur la liberté de l'homme. Et sur le fait que le Seigneur est mort pour tous les hommes et non pas simplement pour les élus, et que par conséquent l'homme est responsable de son salut, qu'il a la liberté de répondre oui ou non à l'appel de la grâce de Dieu. Alors que les réformés calvinistes, il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs, mais par exemple les gens qui sont autour de la faculté d'Aix sont très très calvinistes jusqu'à aujourd'hui, pensent que Christ n'est mort que pour les élus, et que les élus sont des gens qui l'ont été dans la souveraineté de Dieu, par un arbitraire de Dieu, en caricaturant à peine, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une doctrine qui nous semble anti-biblique. Peu de méthodistes prétendraient aujourd'hui que l'expérience de sanctification implique l'absence totale de péché. Mais certains groupes extrémistes, je citais tout à l'heure, le prétendent. Mais par contre, la théologie méthodiste insiste sur le fait que l'homme qui a été sanctifié est libre, a une liberté par rapport au péché que celui qui n'est pas sanctifié n'a pas. Et que il a la possibilité de vaincre ses mauvais désirs, ses mauvais penchants, son mauvais tempérament, son orgueil, etc., etc. Wesley avait divisé l'Église en circuits, nous l'avons vu. Pardon, en classe. D'abord, en classe. L'unité de base était la classe, hein, de 12 personnes. Plusieurs classes formaient une société, c'est-à-dire un groupe local en quelque sorte. C'est un petit peu comme chez les scouts. Et puis plusieurs sociétés formaient un circuit, et plusieurs circuits formaient un district. Et il y avait évidemment des responsables pour chacune de ces unités-là. Il y avait donc un responsable pour la classe, il y avait un responsable pour la société, il y avait un responsable pour le circuit, il y avait un responsable pour le district. Donc voyez-vous, c'était un système assez hiérarchisé quand même. Hein? Donc, de type épiscopal, si vous voulez, il y avait des espèces d'évêques qui administraient plusieurs églises, qui circulaient, des superintendants. Donc, c'est une église très hiérarchisée. Et c'est resté aujourd'hui, les églises méthodistes sont des églises qui sont très hiérarchisées. Et bon, nous avons vu que c'est finalement après sa mort qu'ils ont rompu avec l'église d'Angleterre. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le réveil méthodiste a bouleversé l'Angleterre. C'est un réveil qui a eu un impact à l'échelon national. Et nombre d'historiens ont noté que si l'Angleterre n'a pas connu les affres de la Révolution française, c'est à cause du réveil méthodiste. L'Angleterre se trouvait dans la même situation que la France avant le réveil méthodiste. Et logiquement, une explosion aurait dû avoir lieu de la même manière. Or, la Révolution anglaise, contrairement à la Révolution française qui a eu lieu à la même époque, a été une révolution pacifique. Finalement, on a évolué d'un système d'absolutisme royal vers un système de monarchie parlementaire qui existe encore aujourd'hui, qui est le modèle des démocraties, pacifiquement, sans effusion de sang, sans soubresauts, ni sociaux, ni quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Et la plupart des historiens attribuent, n'est-ce pas, cette évolution, finalement, au réveil méthodiste. Ce n'était pas ce que cherchait Wesley. Wesley cherchait le salut des âmes. Il n'avait absolument aucune arrière-pensée politique. Mais dans les faits, ça a eu un impact politique que Wesley ne cherchait pas. Hein? Mais que la parole de Dieu produit toujours. Hein? La parole de Dieu produit toujours des effets, n'est-ce pas, aussi à ces niveaux-là, sociaux, économiques, etc. Tout comme le réveil de William Booth au XIXe siècle aussi évitera à l'Angleterre de devenir marxiste. Hein? Parce que l'Angleterre aurait dû devenir marxiste. Marx était allé s'installer en Angleterre pour essayer de soulever les masses là-bas. Mais finalement, l'impact de l'Évangile sur l'Angleterre a fait que le bolchevisme n'a pas pris là-bas, il a pris en Russie, parce que la Russie était un système qui était absolument sclérosé, justement, par l'Église orthodoxe, qui était complètement morte, quoi. Alors, voyez-vous, ici, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, deuxième chose aussi, c'est que le réveil wesleyen va provoquer un réveil, si vous voulez, de toutes les églises en Angleterre, et de tout le monde anglo-saxon, on peut dire. Et finalement, le monde anglo-saxon, au siècle suivant, du XIXe siècle, va jouer un rôle de premier plan dans l'expansion du christianisme. Et en particulier, le XIXe siècle, nous aurons l'occasion de le voir, est le grand siècle de l'expansion missionnaire. À la fin du XVIIIe siècle, le christianisme n'est pas une religion mondiale. L'ordre de Jésus le christianisme va devenir une religion mondiale et va se répandre aux quatre extrémités de la terre. Et quand vous regardez l'histoire des missions du XIXe siècle, vous voyez que le gros des troupes missionnaires seront des anglo-saxons, des anglais, des américains essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un impact, ça c'est l'impact du réveil méthodiste. Le réveil méthodiste va donc avoir, si vous voulez, des ramifications dans le monde entier. C'est un instrument utilisé par Dieu pour répandre sa parole dans le monde entier. Et si aujourd'hui l'Évangile a atteint les extrémités de la terre, on peut dire que c'est grâce à Wesley, cet homme tout seul, enfin avec Whitefield et son frère, n'est-ce pas, qu'on le doit. Alors, voilà, si vous voulez, en gros, ce que l'on peut dire du réveil wesleyen. Maintenant, en attendant ce grand réveil, qui ne sera pas uniquement méthodiste, hein, bien sûr, les missionnaires seront de toutes les dénominations, baptistes, plus tard pentecôtistes, enfin, il y aura de toutes les dénominations, mais, si vous voulez, l'élan est donné par le feu du réveil qui s'allume sous l'influence de Wesley et de ses collaborateurs. En attendant ce temps, n'est-ce pas, il y a une première expansion du méthodisme dans les pays voisins. Et par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, le méthodisme passe en Allemagne sous l'influence d'un pasteur réformé qui s'appelle Philippe William Ottermann. Il y a également aussi un pasteur méthodiste qui s'appelle Martin Bohm, B-O-E-H-M, c'est Bohm qu'on dit, qui est mennonite et qui évangélise les chrétiens allemands qui sont établis en Pennsylvanie aux États-Unis. Il a une doctrine arminienne, mais finalement, il va organiser cette église qu'il crée là-bas parmi ces Allemands d'Amérique sur le modèle méthodiste, sur le modèle wesleyen. Et déjà, donc, le méthodisme du vivant de Wesley lui-même a une vision missionnaire. Nous avons vu que Wesley lui-même évangélise les États-Unis. Il tente aussi d'entrer en contact avec les Indiens. Il faut te dire qu'il n'y ait pas eu de tentative d'évangéliser les Indiens. Bon, elles ont été souvent vouées à l'échec, ça n'a pas très bien marché. Mais aussi bien les piétistes moraves, n'est-ce pas, que les wesleyens, les méthodistes, ont eu la vision de l'évangélisation des Indiens, n'est-ce pas ? Et en l'espace de sa vie, n'est-ce pas, il y a eu, en dehors de l'Angleterre, 400 000 convertis. 400 000 convertis par l'intermédiaire des missions issues du réveil méthodiste à l'étranger. Autre conséquence du réveil méthodiste, c'est qu'il a consacré la faillite du rationalisme, du libéralisme qui s'installait dans toutes les églises protestantes. Le réveil méthodiste a été, avec le réveil piétiste, la grande réaction de Dieu contre le rationalisme. Autrement, c'en était fini du protestantisme qui serait devenu entièrement rationaliste. Mais là, le méthodisme, avec d'ailleurs le réveil morave, c'était un peu le même courant, n'est-ce pas ? Insister sur la religion du cœur, sur, si vous voulez, quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup moins intellectuel, l'intellectualisme sec qui s'était installé dans les églises protestantes à cette période-là. N'est-ce pas ? Finalement, ça s'inscrit assez bien, si vous voulez, dans le courant de pensée du XVIIIe siècle. Hein ? Par exemple, un homme comme Rousseau, n'est-ce pas, insistait aussi sur la religion du cœur. Et bon, évidemment, on peut pas dire que Rousseau était un piétiste, hein, il en était loin, même s'il était d'origine protestante. Mais c'était un homme qui était détaché des choses de Dieu. Il était un homme abominable dans sa vie personnelle comme dans son enseignement. Mais disons que il avait la même préoccupation, si vous voulez, de retrouver contre les si vous voulez le l'influence du rationalisme du siècle précédent, n'est-ce pas, français essentiellement, n'est-ce pas, et allemand, de retrouver quelque chose de plus spontané, de quelque chose de plus mystique, de quelque chose qui venait du cœur, quoi. Et si vous voulez, de Rousseau va naître aussi un autre courant au XIXe siècle qui sera le romantisme allemand, et puis le romantisme français ensuite, enfin le romantisme européen d'une manière générale. Rousseau a été un de ceux qui a posé les bases du romantisme, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous voulez, le romantisme aussi qui insistait sur le sentiment, sur le cœur, ces choses-là, n'est-ce pas ? Eh bien, on retrouve, c'est pas, voyez-vous, le christianisme, les grands mouvements de l'esprit de Dieu ne sont pas coupés de la culture de leur temps. Hein? Et Dieu a su trouver finalement ce qui était la préoccupation des hommes de ce temps. Hein? Retrouver quelque chose de plus spontané, quelque chose de plus humain en quelque sorte que l'intellectualisme sec dans lequel on était entré. Et alors évidemment, bon ben, le romantisme va être une tentative humaine de répondre à ce besoin. Et puis finalement, le piétisme, c'est-à-dire quand je parle du piétisme, je parle du réveil morave et du réveil méthodiste, hein, eh bien, sera la réponse de Dieu à ce besoin des hommes et des femmes de ce temps-là. Bon, parmi ceux qui ont aussi conduit à cette évolution, il faut citer Emmanuel Kant, le philosophe, n'est-ce pas, 1724-1804, qui avait sur un plan philosophique, il avait écrit un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Critique de la raison pure. Bon, c'est typique de la démarche d'esprit des hommes de ce siècle, n'est-ce pas ? La raison pure ne suffit plus. Et Kant montre que on ne peut connaître que les apparences des choses et non pas leur nature réelle. Là, il dit quelque chose de très redoutable dont on souffre abominablement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce que finalement, Kant, en agissant de cette manière-là, nie qu'il puisse y avoir une réalité objective, donc une vérité objective. Et c'est la notion de vérité elle-même qui est attaquée. Et aujourd'hui, n'est-ce pas aussi, on a poussé tellement loin, n'est-ce pas, ce qui est né avec le romantisme, n'est-ce pas, ce subjectivisme du cœur, n'est-ce pas, que finalement il n'y a plus de vérité que subjective aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'est vrai, ça commence à être vrai dans le christianisme, y compris dans le christianisme évangélique, on en parlera demain, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, même dans certains milieux évangéliques, on dit que ceux qui ont des convictions, qui font une lecture fidèle de l'Écriture, n'est-ce pas ? C'est le mot qui a été employé au dernier conseil de la Fédération par des évangéliques eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ceux qui font une lecture fidèle de l'Écriture, donc qui affirment qu'il y a une notion de vérité objective, sont des gens dangereux. Mais ça, on doit ça à Kant. Hein. C'est né à cette époque-là. Et par conséquent, il y a une évolution dangereuse. Une évolution dangereuse. Une évolution peut-être à laquelle, justement, les piétistes n'ont pas été suffisamment attentifs. Nous avons vu qu'un homme comme Wesley, par exemple, dans son souci de ne pas rompre avec les églises officielles, a eu tendance parfois à faire des compromis avec la doctrine, par exemple, en vue au sujet de la doctrine du baptême. Hein. Il n'a pas été toujours suffisamment ferme sur l'autorité de l'écriture, sur des choses comme ça. Pour lui, c'était plus quelque chose qui venait du cœur, n'est-ce pas? Nous savons par le cœur, n'est-ce pas? Par l'expérience que la Bible est vraie, etc. Mais il n'a pas toujours su, n'est-ce pas, intellectuellement faire le poids, si vous voulez, au rationalisme. Si bien qu'il y a eu un coup d'arrêt au rationalisme qui a été mis, mais peut-être beaucoup plus sur un plan du subjectivisme du XVIIIe siècle, un peu de nature romantique, plutôt, si vous voulez, que sur un plan véritablement doctrinal. Si bien que le rationalisme n'a pas été éradiqué. Et en même temps, si vous voulez, au siècle suivant, on voit à la fois le piétisme et le rationalisme qui sont en parallèle dans les églises. Et puis qui vont se heurter terriblement au siècle suivant. Il va y avoir un conflit terrible entre les piétistes et puis les rationalistes au XIXe siècle. Et finalement, actuellement, il faut bien reconnaître que ce qui est en train de gagner, c'est le rationalisme et que le piétisme est en train de disparaître. Donc là, si vous voulez, la réponse a permis de donner un coup d'arrêt, mais n'a pas été suffisante. Bon, on ne va pas reprocher ça à nos frères. D'abord, c'était des hommes, ils étaient limités. Et puis, ils avaient tellement à faire, si vous voulez, qu'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils fassent tout. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est déjà considérable et on peut leur en être infiniment reconnaissant. Mais il est certain que là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a manqué et dont nous souffrons aussi aujourd'hui. Bon, Wesley a réhabilité la loi de Dieu. Mais avec cette nuance que pour pouvoir obéir à la loi de Dieu, nous avons besoin du secours de Dieu. Voilà, c'était la grande affirmation de Wesley. Et si vous voulez, c'était un système qui était un système anthropocentrique. Ça veut dire qu'il partait de l'homme, finalement. Là aussi, il y avait l'influence de l'humanisme, n'est-ce pas? On part des besoins psychologiques de l'homme et non pas de la révélation de Dieu. Voyez-vous, le point de départ était discutable, finalement. Et finalement, c'est ce point de vue-là qui, pendant un siècle et demi, va dominer, en particulier la théologie allemande. On trouve ça chez Zinzendorf aussi, n'est-ce pas? C'est commun à Wesley, à Zinzendorf, cet anthropocentrisme. Non, si vous voulez, c'est un humanisme en quelque sorte. On baigne dans l'humanisme à cette époque-là. Et finalement, il va y avoir cette ambivalence au siècle suivant, n'est-ce pas, qui marque d'un côté, c'est vrai, la faillite du rationalisme, mais pas sa défaite totale. Quoi, sa défaite totale. Bien. Ah, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là? Tu me prêtes un crayon de seconde?